Inès Moubachir.
Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui la prolongation de la trêve entre les forces dominées par les Kurdes et les groupes pro-turcs en Syrie. Les forces kurdes contrôlent des régions du nord-est du pays et les groupes pro-turcs sont dans la ville de Manbij, dans le nord de la Syrie. La trêve expirée est prolongée jusqu'à la fin de la semaine et nous chercherons à obtenir que ce cessez-le-feu dure le plus longtemps possible, a indiqué le porte-parole du département d'État américain. Les Nations Unies prévoient le retour d'un million de Syriens déplacés par la guerre civile dans les 6 prochains mois. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui une responsable de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. L'agence a demandé au pays de s'abstenir de procéder à des retours forcés. Le Premier ministre François Bayrou a rencontré Emmanuel Macron aujourd'hui en vue de former un gouvernement. Il s'est fixé la semaine pour y parvenir. L'objectif serait d'évoquer une architecture de démarrage pour son gouvernement. Selon des sources parlementaires, son intention est de présenter une équipe resserrée d'environ 25 ministres avec des personnalités de gauche, du centre et de droite. Plus que quelques questions en suspens dans les négociations entre la Suisse et l'Union européenne, c'est ce qu'indique la publication du commissaire européen Maro Sefcovic sur le réseau social X. Notre objectif est de faire en sorte que les discussions franchissent la ligne d'arrivée, selon lui. Maro Sefcovic et le conseiller fédéral Ignacio Cassis se sont entretenus hier par téléphone. Ignacio Cassis avait indiqué que chaque détail comptait pour parvenir à un accord équilibré. Dès le 1er janvier, tous les trains CFF seront à 100% alimentés par du courant renouvelable. La majeure partie viendra toujours de l'énergie hydraulique, comme c'est le cas à présent. La partie restante sera de l'électricité renouvelable achetée sur le marché, selon les CFF. Jusqu'ici, 90% du courant ferroviaire était issu de l'énergie hydraulique et 10% d'une participation dans l'énergie nucléaire datant des années 70. À Fribourg, l'instauration d'un pass culturel cantonal inspiré du Valais ne se concrétisera pas, ou en tout cas pas dans l'immédiat. Le Conseil d'État veut prendre du recul et chercher un modèle plus adapté à la géographie culturelle et aux besoins prioritaires exprimés sur le terrain. Le Conseil d'État a dit comprendre le potentiel d'un tel projet, mais aussi les craintes exprimées par les entreprises culturelles relatives au développement d'un tel pass qui pourrait fragiliser leur modèle d'affaires. Inspiré du Magic Pass pour le ski, la Bobo en Valais a été lancé en mai 2022. Denis Maifer va succéder à Robert Sandeau à la tête du Théâtre du Jura. Il sera directeur artistique dès la mi-janvier. Le metteur en scène vaudois a récemment co-dirigé 2 théâtres, dont la Comédie de Genève. Le Neuchâtelois Robert Sandeau avait annoncé en avril qu'il allait reprendre la direction du Théâtre du Passage dès 2025. Demain, des températures de 6 à 10 degrés l'après-midi, un peu de brouillard le matin sur le plateau et du soleil malgré quelques passages nuageux.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Jean-Marc Richard.
Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Cette semaine de cœur à cœur, c'est une semaine particulière. Elle est toujours particulière, chaque année. Elle nous emmène à la fois dans l'horreur, autant que dans l'espoir. La souffrance de celles et de ceux qui vivent ou qui ont vécu la maltraitance, qu'elle soit physique, psychologique, la négligence, les abus et tout ce qui peut générer dans l'enfance un traumatisme, une fragilité parfois invisible et durable, une souffrance. C'est vrai que cette semaine elle est particulière parce que c'est une semaine où il faut prendre la parole pour témoigner et dire ce qui nous reste. Nous, dans la ligne de cœur, on est là pour vous donner l'espace pour que vous puissiez prendre cette parole. Vous donner l'espace, vous l'offrir, le partager avec vous. Oui, c'est vrai, le partager avec vous, comme on le fait depuis plusieurs mois, l'enseigne de cœur à cœur, mais aussi un petit peu dans le lien, dans le rapport avec la ligne de cœur. Comme vous le verrez tout à l'heure, par exemple, Nadia va venir, elle témoigne régulièrement dans la ligne de cœur et elle est une de celles et de ceux qui ont témoigné de la maltraitance pour cœur à cœur. Mais aussi, mais aussi parce que dans les rencontres que nous avons faites, en dehors bien sûr de certains que vous connaissez, parce que vous les avez entendus, parce que leur témoignage vous a beaucoup touché. Au-delà, nous avons pendant deux mois et demi, parcouru la Suisse romande avec mon collègue Alain Hugui, qui est réalisateur, parce que tous ces témoignages le sont en son, mais aussi en image. Et dans les rencontres que nous avons faites, il y a eu de jeunes adultes. Il y a eu aussi des enfants et des adolescents, qu'on entend tout au long de la journée, mais des jeunes adultes, et des adultes un peu moins jeunes aussi parfois, mais parmi les jeunes adultes, vous avez entendu Ruth hier qui vous a parlé de la douleur qui était la sienne à la perte de sa maman quand elle avait 15 ans. Aujourd'hui, il en a quelques années de plus en étant gymnasienne. Et puis Charlotte. Charlotte, sa trajectoire est une trajectoire de maltraitance. Parce que Charlotte est quelqu'un que nous aimons beaucoup dans l'équipe de Cœur à Cœur et de la Ligne de Cœur et que nous avions envie de partager avec elle. On va rester sur le mot maltraitance parce qu'il était impossible de détailler la maltraitance dont elle était victime à sa demande et à la demande de celles et de ceux qui l'ont accompagnée dans ces périodes douloureuses et difficiles. Charlotte, elle a été placée à un moment donné, et je crois que c'était pour elle une condition de survie, dans un foyer, un des foyers de la Fondation Jeunesse et Famille, qui fait un boulot absolument incroyable dans le canton de Vaud. Alors Charlotte, elle nous raconte, elle se raconte, elle dit le foyer, elle dit aussi ce qu'elle a vécu, sa souffrance et ses espoirs.
Je pense que ça m'a d'abord permis d'avoir une bulle pour pouvoir me reconstruire, pour pouvoir essayer de refaire confiance aux adultes, d'avancer dans ma vie, retrouver confiance en moi aussi. Et ça m'a offert quand même un semblant de famille avec des liens plus sains et une manière de pouvoir évoluer pour la suite aussi.
Tu aurais pu imaginer le faire sans avoir été placée ?
Non. Honnêtement, je sais qu'on m'avait dit que j'étais très mature pour mon âge et on m'avait proposé même déjà de prendre mon indépendance alors que j'avais 15 ans. Et je suis très contente que ça ne se soit pas fait parce que je pense que même si je montrais cette maturité et cette autonomie, au fond, j'en avais tellement besoin d'avoir ces adultes qui m'encadraient. Et je pense que sans eux, je ne serais pas la même personne aujourd'hui. Et moi, je dirais même que pour ma part, ça s'est arrêté à 18 ans et que je pense que j'aurais eu besoin de plus.
Lorsqu'on a une rupture de confiance avec les adultes suite à une maltraitance dont on a été victime, est-ce qu'on arrive à reconstruire cette confiance ?
Ça prend du temps. C'est des hauts et des bas, mais je pense que c'est pas, on n'est pas condamné à plus jamais y arriver, mais peut-être avec plus de difficultés que d'autres personnes.
Quand tu repenses à toutes ces années, celles liées à la maltraitance, celles en placement, qu'est-ce qui te revient d'abord à l'esprit ?
C'est beaucoup de souffrance quand même. Un passé que parfois j'aimerais bien pouvoir effacer. Mais aujourd'hui, avec toute cette souffrance, j'essaye de ne pas en faire une excuse, mais plutôt d'en faire une histoire que je pourrais raconter plus tard, quand j'aurai réussi. Et même si c'est pas facile tous les jours et que très souvent je me dis que j'aurais préféré jamais naître, je me dis que aujourd'hui de choisir de vivre malgré ça, c'est la plus belle chose que je peux en faire, je pense.
Merci Charlotte, merci à vous. N'hésitez pas à nous appeler au 0800 80 70 70 0800 80 70 70 pour parler de tout ça et peut-être d'autres choses. Venez simplement partager avec nous ce soir, on se réjouit de vous accueillir.
On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais, petite, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir.
On m'avait dit, faut écouter son père. Le mien a rien dit quand il s'est fait la paire. Maman m'a dit, t'es trop petit pour comprendre. Et j'ai grandi avec une place à prendre.
Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de vexer?
On passe sa vie à dire merci, merci à qui? À quoi a fait la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment? On m'avait dit, les hommes sont tous pareils. Il y a plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul soleil.
Oui, mais le soleil, il brille ou bien il brûle. Tu meurs de soif, ou bien tu bois des bulles. À toi aussi, je suis sûre qu'on t'en a dit de belles histoires.
Tu parles que des conneries.
Alors maintenant, on se retrouve sur la route avec nos peurs, nos angoisses, nos doutes. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les sa vie à dire merci, merci à qui et à quoi a fait la pluie et le beau temps pour tes enfants à qui l'on ment.
Merci. L'un ou l'une d'entre vous dont on n'a pas le nom a choisi ce titre contre un don fait pour l'opération Cœur à Cœur. C'est que vous pouvez faire des dons en tout temps, évidemment, puisque même quand le standard n'est pas ouvert, puisqu'il l'est seulement de 12h30 à 19h, sur bonheur.ch, vous pouvez faire aussi sur cœur.rts.ch, mais sur bonheur.ch, vous pouvez faire un don pour cette lutte contre la maltraitance des enfants dont on parle depuis samedi dernier. Et là, vous avez reconnu évidemment Patrick Bruel, mais à ses côtés, il y avait Anna Torroja, dont vous vous souvenez peut-être, les plus anciens en tout cas. Enfin non, pas si anciens que ça, hein. C'était la chanteuse du groupe Mécano. Irrota la Luna, vous vous souvenez de cette magnifique chanson? Eh bien, c'est elle. Qui a le droit? Nadia, vous qui aimez chanter, vous qui aimez bien le karaoké, j'imagine que cette chanson, ça a dû vous toucher par rapport à tout ce que vous avez vécu aussi, je suppose. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors oui, c'est une chanson plus que j'ai chantée au karaoké. À part ça, vous avez passé une très jolie version que je ne connaissais pas. Oui, ça me touche parce que, ben, en fait, moi, on m'a menti depuis, ouais, depuis l'enfant, justement. Et je trouve que c'est une magnifique chanson qui explique vraiment très, très bien. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter tellement que le texte et bouleversant et criant de vérité. C'est vraiment en plus j'aimais beaucoup moins le groupe Mécano Je veux dire que là, vraiment, ce duo était vraiment fantastique, vraiment très, très, très beau.
Nadia, qu'est-ce qui se passe quand on prend conscience qu'on nous a menti toute notre enfance?
Comment dire, c'est pas évident déjà à se convaincre, à se dire, mais oui, effectivement, on m'a menti, on a envie de, enfin, je sais pas les autres, mais en tout cas, moi, je me disais, mais non, j'ai peut-être pas bien compris et tout, mais j'étais quand même c'est difficile parce que la réalité dans ce moment-là, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien voir les choses en face. Franchement, c'est difficile à mettre un mot dessus, mais en tout cas, ce ressenti, c'est vraiment, mais ouais, je crois que cette chanson résume vraiment très bien qui a le droit. Moi, je me disais, mais de quel droit, quoi? Je veux dire, on me dit toutes ces salades, quoi. Donc, c'est un sentiment de un peu d'impuissance et d'injustice. Après, pour aller chercher la vérité, qu'il faut chercher les preuves, qui est vraiment très, très compliqué.
Vous êtes allée sur la place à la Chaux-de-Fonds, Nadia, c'est juste?
Oui, devant le cube. Alors, oui, franchement, hier, j'ai eu beaucoup de joie. C'était un mélange de tristesse et de joie. Quand j'ai entendu Yesterday, c'est une chanson vraiment, voilà, quand j'étais petite, moi j'étais à la Chaux-de-Fonds, j'étais dans un foyer, pas long, mais j'étais quand même. Et ouais, ça m'a vraiment, j'avais une ambiance incroyable et tout. Et puis après, ça m'a rappelé aussi quand j'étais allée chanter justement à Cœur à Cœur. Et c'était une année formidable parce que même si j'étais seule pour Noël, mais là c'était différent. Ok, j'étais avec personne de ma famille, mais le fait de chanter comme ça pour les gens et puis dire là je fais passer un petit moment très sympa à beaucoup de gens qui sont seuls. Ouais, c'était vraiment c'était gratifiant, c'était vraiment beau. Et cette année, ça fait déjà, je crois, 3 années de suite maintenant. Apparemment, le 24, le 25, il n'y a rien. Et j'ai envie de témoigner sur justement qui semble le plus avoir de sens. Parce que franchement, de passer Noël seul, le 24, le 25, ça semble plus tellement... Et moi, j'aimerais bien aller à Cœur à Cœur cette année. Mais il y a des souvenirs là-bas et pour moi, je n'arrive pas encore à les affronter parce que oui, c'était très beau, mais d'un côté, maintenant, ça fait partie du passé et c'est un petit peu difficile pour moi quand même.
Rappelez-nous, c'est quoi Cœur à Cœur? Ça n'a rien à voir avec l'opération Cœur à Cœur de la RTS, dont vous parlez, ou bien c'est...
En tout cas, je me souviens que ça s'appelait Cœur à Cœur.
Oui.
Ça, c'est ce que je me souviens, mais bon, en tout cas, il n'y avait pas la RTS qui était là, mais...
Oui, d'accord.
Comme c'est la même chose...
C'est des repas communautaires, c'est ça.
Voilà, c'est des repas communautaires, mais qui s'appellent Cœur à Cœur, puis ça m'a fait souvenir de ça, en fait.
Oui, oui.
Et puis, dans ces moments où il n'y a plus tellement de sens, ça m'a fait souvenir, peut-être, mais j'espère que ça pourra encourager quelqu'un. Moi, j'avais écrit une mélodie en 2009 qui n'avait pas de titre. Et puis, je me demandais à quoi elle servait, cette mélodie, parce qu'en plus, elle était jolie, je trouvais. Et puis, je les ai jouées au fil des années. Alors, il y a des gens, des fois, qui trouvaient ça joli, mais je me demandais, en fin de compte, je disais à Dieu, mais à quoi ça sert? Je suis inspirée pour créer des jolies mélodies, mais à quoi ça sert? Je ne comprenais pas vraiment. Et vraiment, en 2024, ce qui s'est passé à Gaza, il y a une personne qui s'appelle Adriana qui a fait tout d'un coup un montage avec ma mélodie que j'avais créée en 2009, et il y avait dans cette vidéo, on voyait les chats justement qui sortaient des décombres à Gaza et tout, les chats qui étaient sauvés par les vétérinaires, et j'étais très émue quand j'ai vu ce vidéo montage. Tout d'un coup, il y a un titre qui m'est venu pour cette mélodie qui s'appelait « Espoir ». Et je me suis dit, j'ai envie de témoigner sur cette mélodie qui semblait ne servir à rien en 2009-2010. Et tout d'un coup, ça a pris du sens en 2024. Alors voilà, je veux juste encourager les gens que s'ils trouvent qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens, tout d'un coup, il y aura un événement, une personne qui fera que En fait, il y a ce qui semblait ne pas avoir de sens. Là, tout d'un coup, on prend le... comment dire, il y a le... Comment je vois le mot espoir qui revient, en fait.
Mais quand vous dites le mot espoir qui revient, chez vous, ça revient et ça repart ou ça reste, l'espoir, aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous avez vécu, Nadia?
Alors, oui, il y a des moments où ça part quand... là, justement, je sais pas, avec mes épaules, tout d'un coup, j'arrive à plus bouger. Je suis là, je suis vraiment très mal. Le fait d'être seule et puis tout ça, c'est vrai que là, l'espoir, je comprends plus tellement. Mais après, tout d'un coup, il se passe des choses dans la journée où je me dis, bon, quand même, tiens, ça, c'était bien. Et je me rappelle de cette jolie mélodie. Comme de 2009 à 2024, ça fait un petit bout. Et voilà, je me dis, peut-être des personnes qui trouvent qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens, tout d'un coup, il peut passer un événement qui est justement un petit quelque chose qui, tout d'un coup, on donne tout son sens.
Nadia, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous alliez passer Noël seul, c'est ça? 24-25?
Oui.
Bon, déjà, vous serez avec nous le 25 parce que le soir, on sera là. Pas le 24, mais ça, c'est tout petit peu de baume sur les plaies. Mais c'est difficile à vous, pour vous, de passer seul le 24-25 ou vous vous dites mieux vaut être seul que mal accompagné?
C'est les deux. C'est ce que m'a dit ma psy aujourd'hui. Mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est vrai, mais d'un côté, je me dis qu'il n'y ait pas quelqu'un, parce que ça fait 51 ans que je suis dans le même canton. Et pas quelqu'un, je veux dire, moi je ne peux pas inviter les gens chez moi parce que c'est vétuste chez moi, donc ce n'est pas évident, mais qu'il n'y ait pas une personne qui se dit, tiens, on fait une petite place pour Nadia, pour un repas, soit le 24 ou le 25, ou même le 26, hein, je veux dire, mais voilà, enfin, c'est pas évident de se dire qu'en fait, on a de la place auprès de personne. Alors, il y a une année où j'avais eu, l'Agnac, où j'ai mis une annonce. J'ai dit, si quelqu'un aurait une petite place pour le 24 ou le 25, je prends qu'une petite place, juste 1m55, j'ai mis un smiley qui rigolait. Et voilà, quoi, c'était une annonce faite avec humour que ça a trouvé écho. Et j'ai passé un merveilleux Noël avec des gens que je ne connaissais pas du tout. Mais là, j'ai pas l'année à casser cette année. Alors, c'est un petit peu les deux, c'est un sentiment. Alors, je suis très reconnaissante que vous serez là le 25. Alors effectivement, ça va mettre beaucoup de baume, je pense. Mais c'est vrai que c'est... Comment dire ça fait quand même un peu mal quelque part de se dire qu'il n'y a pas un oncle, pas une cousine, pas une connaissance, qu'il n'y a personne. Ouais, ça fait... Alors après, il y a des repas pour les gens qui sont seuls. Et voilà, moi, j'ai certains souvenirs avec mon hypersensibilité. J'arrive pas alors que d'autres personnes, peut-être, y arriveraient très bien.
Oui. Mais c'est peut-être que cette année, c'est plus difficile que d'autres années, parce que vous y êtes arrivé par le passé.
Oui, j'y suis arrivée. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet de ma cinquantaine, je ne sais pas. Mais je n'arrive pas à expliquer pourquoi maintenant, en fait, j'y arrive pas, en fait. Puis, je ne sais pas, de me dire que je suis dans un repas communautaire après de sortir dans le froid, la nuit.
Je vois ce que vous voulez.
Je deviens un peu plus casanière avec le temps, en fait.
Nadia, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Ça nous touche beaucoup et revenez le 25. Comme ça, on pourra un petit peu papoter les deux.
Oui,
prendre le temps de partager, de raconter, de dire des choses. Et puis, on va vous écouter dès demain. Et pour les trois dernières journées de cœur à cœur, on va vous entendre témoigner sur la maltraitance dont vous avez été victime. Et vous êtes une des seules à le souligner. Et c'était pour nous important de vous écouter dans ces témoignages, de dire comment l'État aurait dû plus directement ou plus clairement intervenir. On en reparle demain. D'accord? Merci.
D'accord, avec plaisir. Alors à bientôt, Jean-Marc.
Au revoir, à bientôt. Merci.
Au revoir.
Parmi les titres que vous avez choisis, il y en a un qui me fait personnellement plaisir. C'est un peu égoïste, mais j'avais envie d'écouter ce soir, même s'il est assez long, on pourra peut-être pas l'écouter jusqu'au bout. C'est un titre de l'ami Alain Morisot. Et c'est une belle histoire de routier et d'enfant.
« Je ne crois pas qu'on se connaisse, vous et moi. Mais je suis à peu près certain qu'on a bien dû se rencontrer quelque part, sur la route. Vous, au volant de votre voiture, et moi, dans la cabine de mon semi-remorque. Oui, je suis routier. J'aime l'aventure et j'ai roulé ma bosse aux quatre coins du monde. J'en ai passé des frontières, ébouffé des kilomètres de poussière, de boue ou de neige. À cette époque-là, je faisais la ligne sur l'autoroute de Californie. Et c'est là, justement, que m'est arrivée cette étrange histoire. Je venais de loin. Je conduisais depuis trop longtemps. Et la fatigue commençait à se faire sentir. J'hésitais à réveiller mon helper qui dormait dans la couchette. Pour me tenir compagnie, j'avais branché mon CB, comme on dit par chez nous. C'est cet appareil qui nous permet à nous les routiers de garder le contact et de nous entraider en cas de coup dur. Je venais à peine d'allumer le canal 27 de mon CB lorsque j'entendis, à travers la friture, une petite voix lointaine qui parlait. Une petite voix d'enfant qui appelait. Allô? Allô, les routiers? Ici Teddy. Teddy Bear. M'entendez-vous? Ici Teddy. Répondez-moi. Je tournais le bouton de mon CB sur l'émission et questionnais à mon tour. Allô? Allô, Teddy? Ici la route. D'où appelles-tu? Que veux-tu? La voix du gamin répondit un peu plus proche. Ici, Teddy, j'appelle les routiers. Je te reçois, Teddy. Que veux-tu? Je suis tout seul, je m'ennuie et je voudrais parler un peu avec vous. Je vous appelle avec le CB de mon papa. Cet été, nous avons eu un très grave accident. Et je suis toujours dans mon lit. Le docteur dit que je pourrais marcher un jour, mais que ce sera sûrement très long. J'habite une petite maison tout près de l'autoroute. Je suis souvent seul le soir, car maman est serveuse dans un snack pour nous faire vivre. J'ai perdu mon papa dans l'accident qui a détruit son camion et qui m'a cloué au lit. Il m'emmenait de temps en temps pour les petites courses, mais maintenant, il ne vient plus jamais personne. Alors, j'essaie de vous accrocher avec le CB qui nous reste pour vous parler un petit peu quand vous passez sur l'autoroute. Je ne suis pas une fillette, mais il me semble soudain que mes yeux se brouillaient, que j'y voyais moins bien. À la première sortie venue, j'ai arrêté le moteur et j'ai sorti ma carte. Dis-moi, Teddy, où habites-tu exactement? Le petit me situait à sa maison. J'avais de l'avance sur l'horaire. Je remis en marche et je sortis de l'autoroute. Bien que j'ai foncé pour arriver chez lui, je n'étais pourtant pas le premier. Bon sang! Six énormes vannes m'y attendaient. Six copains qui avaient entendu notre conversation et m'avaient devancé. D'autres arrivaient encore. On est tous entrés. On a sorti Teddy de son petit lit. Et ce fut vraiment la fête. Chacun voulait le porter, l'asseoir derrière son volant, le cajoler. Le gamin rayonnait. On lui donna un tas de petits gadgets qu'on avait dans nos cabines. Et puis, il fallut bien penser à reprendre la route. Je le remis dans son lit après l'avoir embrassé une dernière fois. Je grimpais sur mon siège et je tirais le démarreur. J'ai vu plus d'un dur qui détournait la tête. On lui promit que chaque fois qu'on passerait sur l'autoroute, on klaxonnerait d'une certaine manière pour qu'il nous entende. On se quitta enfin. Je n'avais pas fait 3 kilomètres que mon CB crépitait à nouveau. Mais c'était une autre voix.
Ah, alors si vous voulez savoir la fin de l'histoire, ce sera après le journal.
L'heure avec RTS Première.
Il est 22h30, c'est Karine Joriot qui vous présente le journal de nuit. Bonsoir Karine.
Bonsoir. La franchise minimale de l'assurance maladie fixée à 300 francs pourrait bientôt augmenter. Le Parlement y est favorable. Le Conseil fédéral se dit ouvert à l'idée, mais cela ne convainc pas tous les parlementaires. Les impôts des Vaudois baisseront plus que prévu, de 7% d'ici 2027. Le Grand Conseil a suivi une proposition de l'UDC plus généreuse que la version du gouvernement. Paul Watson est désormais libre. Le Danemark a rejeté la demande d'extradition du Japon, jugeant que la détention du militant écologiste a permis d'attirer l'attention sur l'illégalité de la chasse à la baleine. Et météo, encore un temps sec et en partie ensoleillé demain avant l'arrivée d'une perturbation jeudi. La franchise minimale des primes maladie devrait augmenter alors qu'elle se situe actuellement à 300 francs. Le Conseil national a accepté hier une motion UDC qui propose de l'adapter à l'évolution des coûts de la santé avec pour argument principal la franchise minimale est la même depuis 20 ans. Le Conseil des États se montre du même avis. En septembre, il a accepté un texte similaire. Mais alors que les primes maladie ne cessent d'augmenter chaque année, une hausse de la franchise n'est-elle pas là uniquement pour alourdir encore un peu plus les charges pour les citoyens? C'est la question posée au centriste Benjamin Roduit.
Évidemment, non. La franchise, hein, c'est un peu une sorte de mantra hein, pour la droite libérale, hein, qui aimerait qu'elle soit le plus haut possible, mais aussi un mantra pour la gauche, qui finalement souhaiterait la supprimer. Or, qu'est-ce qui est proposé ici? Ce n'est pas une adaptation automatique par rapport au coût de la santé, c'est la franchise doit être le reflet de l'évolution des coûts de la santé. C'est tout à fait différent et c'est peut-être pour ça que le Conseil fédéral, par sa ministre socialiste, eh bien reste ouverte à la question.
Une franchise plus élevée, justifiée donc par une hausse constante des coûts de la santé, un argument qui ne convainc pas la socialiste Brigitte Crotta.
Alors, c'est véritablement pas la façon d'y arriver. Et puis, M. Roduit vient de dire qu'il ne s'adresse pas, il ne parle pas des gens qui ont des maladies chroniques ou qui ont des maladies graves, alors qu'en fait, c'est ces malades-là qui prennent les franchises les plus basses, sachant qu'ils vont les utiliser chaque année. D'ailleurs, même ces malades chroniques, on se demande encore pourquoi ils payent une franchise, puisque chaque année, ils vont de toute façon la dépasser. Et il ne s'agit pas d'une responsabilité individuelle quand on a une maladie qui oblige à consulter et à consommer des médicaments. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la Suisse est le pays où les assurés payent le plus de leur poche. 60% des coûts de la santé sont payés par les assurés, par vous et moi. 60% de 90 milliards, ça fait quand même 54 milliards qui sont demandés chaque année à la population. Et ceci comporte non seulement les primes, mais la franchise, la quote-part, tout ce qui est payé out of pocket, comme les soins dentaires, les médicaments non remboursés.
Brigitte Crotta et Benjamin Roduit qui s'exprimaient dans Forum ce soir. Dans le canton de Vaud, la baisse d'impôts sera plus forte que prévu. D'ici 2027, la baisse de l'impôt sur le revenu atteindra 7% au total. Une mesure gravée dans le marbre aujourd'hui, après plusieurs jours de débats au Parlement. Des débats sur lesquels a plané l'ombre de l'initiative des 12%. Cette baisse de 7% va donc plus loin que ce que voulait le Conseil d'État, au risque de mettre à mal les finances cantonales, Robin Baudrin.
Oui, le gouvernement prônait en effet une baisse d'impôts progressive d'ici la fin de la législature en 2027, 4% en moins pour l'année prochaine, puis 0,5% par an. Pour autant que les finances de l'État soient saines, couplé à d'autres mesures comme la hausse des allocations familiales, cette baisse d'impôts était en fait la mesure phare du plan pouvoir d'achat du gouvernement. Un plan présenté comme un contre-projet indirect à l'initiative dite des 12%, déposé et soutenu par les milieux économiques. Un texte qui demande un rabais d'impôts de 12% pour tous, jugé excessif, dangereux pour la santé financière du canton. L'initiative, elle n'est soutenue que par l'UDC et une poignée de députés du PLR.
Et c'est justement l'UDC qui a fait bouger les lignes au Grand Conseil en imposant une baisse d'impôts plus importante.
Le parti a en effet profité du spectre de cette initiative des 12% pour imposer ses idées. Il a d'abord déposé un amendement demandant de doubler la baisse d'impôts portée par le gouvernement de 5 à 10%, une idée balayée par les députés. Mais l'UDC est revenu avec un nouvel amendement réclamant cette fois-ci un rabais de l'impôt sur le revenu de 7% d'ici 2027. Une baisse finalement acceptée grâce à des tractations entre PLR et socialistes et l'abstention d'une partie partie du groupe PS. Le Conseil d'État ne s'est pas non plus opposé à cette baisse plus généreuse alors qu'il avait pourtant mis en garde quant à la santé financière fragile du canton. Un canton qui a replongé dans les chiffres rouges cette année, une première depuis près de 20 ans. Au final, cette baisse d'impôt de 7%, le Grand Conseil espère pouvoir barrer la route à l'initiative des milieux économiques.
Vos précisions, Robin Baudra, et les Vaudois devraient se prononcer dans les urnes l'année prochaine. Dans le canton de Genève, à présent, les magasins pourront ouvrir ce dimanche 22 décembre. Un rebondissement dans ce dossier, avec plusieurs allers-retours et bras de fer entre les syndicats et les commerçants. Le tribunal fédéral a donné raison au recours de ces derniers, le temps de se prononcer sur le fond du dossier. Pour la Cour suprême, il en va de la santé économique des commerces genevois, soumis à une forte concurrence en raison du tourisme d'achat. Flore Tesser est la secrétaire générale de Genève Commerce, à l'origine de ce recours. Cours avec la NOD, la nouvelle organisation des entrepreneurs. Cette décision est accueillie avec soulagement.
Alors, on est très content de pouvoir accueillir la population quand elle souhaite aller dans nos magasins. Maintenant, c'est vrai que c'est une surprise. On avait un peu abandonné l'idée d'ouvrir le 22 décembre. Pour nous, ce recours, c'était vraiment parce qu'on estime qu'il y a des questions de fond qui doivent être tranchées. Et puis, ça pose maintenant des questions d'organisation assez pointues. C'est pas tout à fait le timing qu'on aurait souhaité.
Oui, c'est vrai. Ce revirement arrive quelques jours avant le 22 décembre. Est-ce que ça va vraiment bénéficier aux commerçants? Il va falloir se réorganiser, vite fait.
Alors, effectivement, il va falloir se réorganiser. Maintenant, mes membres sont enthousiastes. Encore une fois, on travaille essentiellement pour l'avenir, donc pour que ces questions soient tranchées. Maintenant, ils vont faire leur maximum pour ouvrir. Un commerçant n'est pas bête, n'ouvre pas pour perdre de l'argent. Donc, on travaille pour l'avenir et puis ceux qui ouvriront, ils trouveront certainement un intérêt.
Flore Tesser qui répondait à Coraline Pochard. Le Hezbollah sera interdit en Suisse. C'est la décision prise ce matin par le Conseil national. Quelques jours après le Hamas, c'est donc maintenant le mouvement armé chiite libanais qui est visé. Alors qu'est-ce qui motive le Parlement à interdire le Hezbollah, Phileas Sautier?
C'est une manière d'envoyer un signal clair contre le terrorisme et ça offre plus d'outils pour prévenir les activités du Hezbollah sur notre territoire. C'est ce qu'ont argumenté, en tout cas, ce matin, les défenseurs du texte à Berne. Si l'interdiction du Hezbollah se fait de manière similaire à celle du Hamas, cela devrait permettre des mesures préventives plus faciles, comme les interdictions d'entrée, les expulsions par exemple. Un ensemble de mesures qui permettrait de réduire les menaces terroristes en Suisse. Et ce, malgré les craintes de plusieurs conseillers nationaux ce matin à la tribune du Parlement, notamment, pourrait-on encore accompagner les discussions de paix entre Israël et le Liban une fois le Hezbollah interdit? La majorité du Parlement estime que notre législation le permet malgré tout. Au final, le texte a été accepté à une large majorité malgré l'opposition des Verts et l'abstention des socialistes. La semaine dernière, l'autre chambre du Parlement, le Conseil des États, avait pris la même décision. Le gouvernement devra donc rédiger un projet de loi.
Merci Phileas. Et le conflit n'est pas encore terminé en Syrie, malgré l'éviction du président Bachar al-Assad. C'est l'avertissement aujourd'hui de l'envoyé spécial de l'ONU. Il a évoqué des affrontements dans le nord du pays entre les forces pro-kurdes et les groupes pro-turcs. Le chef militaire du groupe Hayat Tahrir al-Sham, qui mène la coalition au pouvoir en Syrie, a lui demandé l'arrêt des frappes et incursions israéliennes qui se sont intensifiées depuis la chute de Bachar al-Assad. Il a par ailleurs appelé l'Occident à retirer le groupe Hayat Tahrir al-Sham de la liste des organisations terroristes. Le groupe est en effet considéré comme terroriste par l'ONU, les États-Unis et certains pays européens. Emmanuel Macron est attendu jeudi sur l'archipel de Mayotte, dévasté par le passage meurtrier du cyclone Chido et menacé par une crise sanitaire. Un couvre-feu a été instauré ce soir pour éviter les pillages. Pour l'heure, le bilan des victimes n'a pas été établi. Le préfet de Mayotte évoque plusieurs centaines, voire quelques milliers de victimes potentielles. Paul Watson est libre. Le Danemark a refusé la demande d'extradition du Japon. Le militant écologiste américano-canadien, grand défenseur des baleines, a pu quitter la prison de Nuuk au Groenland. Et c'était une longue détention provisoire puisqu'elle a duré près de 5 mois, Alexandra Richard.
Oui, 149 jours de prison. Paul Watson est arrêté le 21 juillet. Ce jour-là, il s'apprête à quitter le port de Nuuk pour bloquer un navire harpon japonais chasseur de baleines. Il fait le plein de son bateau lorsque la police danoise l'arrête sur la base d'une notice rouge d'Interpol émise par le Japon il y a plus de 10 ans. Le Japon qui l'accuse d'être co-responsable de dommages et blessures à bord d'un navire baleinier lors d'une campagne menée par son association Sea Shepherd en 2010.
149 jours à attendre et pas l'attente d'un jugement, mais bien d'une réponse à cette demande d'extradition, Alexandra.
Oui, exactement. Livré ou non, le militant écologiste au Japon, Paul Watson, aura déposé 6 demandes de libération. 6, c'est que les enjeux politiques, géopolitiques même vont bien au-delà de cette action militante. Les États-Unis ne veulent pas contrarier le Japon, le Danemark non plus. Et en arrêtant Paul Watson, il n'était pas obligé de le faire légalement, le gouvernement danois marque des points auprès de ses anciennes colonies, les îles Féroé, qui vivent encore de la chasse à la baleine et aux dauphins, et le Groenland qui se souvient encore du combat de Paul Watson pour la défense des phoques. Ces 5 derniers mois, le Danemark a donc été sous pression à la fois du Japon d'un côté, de la France aussi de l'autre, qui a œuvré pour la libération de l'activiste, qui ne fait pas non plus, il faut le rappeler, l'unanimité chez les écologistes. Ces méthodes coup de poing sont parfois mal vues chez les adeptes de la non-violence.
Et Paul Watson qui est donc libre après 6 reports, comment le Danemark motive-t-il sa décision aujourd'hui ?
Alors, plusieurs raisons. La durée de la détention provisoire, d'abord, c'est déjà une peine en soi. Le fait aussi que le cas remonte à plus de 14 ans. Et enfin, la nature même des actes qui sont reprochés à Paul Watson. À 74 ans, celui qu'on appelle aussi le pirate vert des océans est donc libre. À sa sortie de cellule, il s'est réjoui que son arrestation ait attiré l'attention de la communauté internationale sur le sort des baleines. Dans l'immédiat, il va rentrer en France où vit sa famille le temps de Noël avant de reprendre le combat. Ses avocats veulent maintenant attaquer cette fameuse notice rouge pour que Paul Watson puisse à nouveau voyager librement partout dans le monde.
Merci beaucoup Alexandra Richard. Et en sport, il y avait du hockey sur glace ce soir avec le match retour entre Bremerhaven et Genève Servette dans les quarts de finale de la Ligue des Champions. Un match qui s'est terminé sur le score de 2-2 et Genève Servette tenant du titre qui atteint à nouveau les demi-finales et qui est rejoint par Zurich qui vient de se qualifier aux dépens de Eisbären Berlin. La météo pour demain, des bancs de brouillard possibles le matin sur le plateau avec un sommet vers 600 mètres, sinon temps en partie ensoleillé malgré de nombreux passages nuageux, un maximum de 10 degrés. Jeudi, on attend l'arrivée d'une perturbation.
Merci beaucoup Karine. Karine Joriot pour la présentation de ce journal de nuit. Alors, juste avant le journal de nuit, on écoutait ce titre d'Alain Morisot, Le routier et l'enfant. La version originale, c'est Teddy Bear. J'ai senti un peu de frustration chez Mathias Brönnimann, qui adore Alain Morisot et cette chanson, et surtout chez votre serviteur de pas connaître la fin de l'histoire. C'est une histoire qui nous est racontée, et on va écouter la fin de l'histoire, justement.
J'ai vu plus d'un dur qui détournait la tête. On lui promet que chaque fois qu'on passerait sur l'autoroute, on klaxonnerait d'une certaine manière pour qu'elle nous entende. On se quitta enfin. Je n'avais pas fait 3 kilomètres comme on s'est vit crépiter à nouveau. Mais c'était une autre voix, une voix émue de femme. Et elle disait: allô, les routiers, ici la maman de Teddy. Merci les gars, vous êtes de braves types. Bonne route et que Dieu vous protège. Je n'ai pas pu répondre un seul mot. J'ai coupé mon CB et alors seulement, j'ai chialé. Oui, chialé comme un vrai monde.
Oh, elle est extraordinaire cette chanson. Alors évidemment, elle a été choisie, je ne sais pas par qui, parce qu'on n'a pas la liste de vos noms, mais quelqu'un a fait un don et a choisi ce titre. Et c'est Vili Désolu qui nous l'a placé dans notre escarcelle ce soir de la ligne de cœur. On va prendre des nouvelles de la route, justement.
Infotrafic RTS.
Sur la une, Genève-Lausanne, entre l'aéroport de Genève et le Grand Saconnet, on signale un accident qui perturbe la circulation. Alex, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup de l'invitation.
Ben oui, c'est Daniel Do qui nous a suggéré de partager avec vous un peu de vous à travers votre livre « Guérir l'invisible ». Ça commence, enfin, je devrais dire, comme une deuxième vie, le fait que tout à coup, on vous détecte ce syndrome de l'intestin irritable et que l'on vous dit que vous allez devoir apprendre à vivre avec pour le restant de votre vie. C'est comme le démarrage d'une deuxième vie, c'est ça, on peut dire, ou c'est exagéré?
Oui, ben en fait, c'est-à-dire que cette maladie, elle a été détectée assez rapidement, donc quand j'étais assez jeune. Et elle s'est manifestée justement par plusieurs types de symptômes, beaucoup d'indigestion, de crampes, de douleurs à l'estomac. Et puis, c'est vrai qu'en fait, depuis toujours, j'avais cette intuition, je pourrais même dire conviction profonde, qu'il y avait vraiment une cause, en fait, à cette maladie.
Mmh.
Et c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai entamé donc ce long chemin de guérison.
Mmh.
Et du coup, c'est vrai que ça a été assez difficile, parce que la médecine, en fait, c'est une maladie qui est assez mal comprise, dont on ne comprend pas très bien l'origine. On pense qu'effectivement, ça peut être dû aussi au stress, mais on n'a pas vraiment de cause identifiée.
Alors, la médecine n'a pas vraiment identifié les causes, mais vous aviez quand même une petite idée sur ce qui pourrait avoir eu une influence sur cette maladie?
Alors, en fait, moi, c'est-à-dire, c'est comme je raconte dans le livre, c'est que j'ai grandi, en fait, dans un environnement assez difficile, donc sur le plan émotionnel et mental. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de blessures émotionnelles vis-à-vis de mes parents. Et c'est vrai que, comme j'ai mentionné précédemment, le stress, en fait, ça peut être une des causes, donc relatives à cette maladie, ou du moins au degré justement des symptômes. Et aussi, il y avait donc cette ambiance plutôt paranormale, donc au sein de notre domicile, avec justement pas mal de phénomènes paranormaux. Donc c'est vrai que j'ai un peu grandi dans cette ambiance qui était assez lourde sur le plan émotionnel et mental. Et du coup, donc par la suite, effectivement, j'ai eu un parcours quand même assez chaotique, comme je l'explique dans le livre. Donc, c'est vrai que c'était un peu un enchevêtrement de problèmes.
Quand vous dites chaotique, c'est-à-dire des problèmes de consommation, des troubles, voilà, des traumatismes, des choses comme ça?
Voilà, exactement, parce que c'est vrai que donc moi, depuis tout petit, j'étais totalement conscient de mon homosexualité. Et puis, c'est vrai que ça a été très challengeant pour moi, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez mal vu et on pouvait pas aussi librement en fait en parler. Donc c'est vrai que j'ai dû cacher ça. Et puis je pense que aussi ça a joué indirectement un rôle, un impact négatif sur cette maladie.
Cacher ça au regard des autres.
Au regard des autres et puis aussi au regard de ma famille. Parce que c'est vrai, c'est comme je le dis, c'est que donc forcément ils le savaient pas forcément, alors ils avaient des doutes, mais comme je raconte dans le livre, il y avait ces moments où justement on était en famille à table, et lorsque la thématique ou le sujet était évoqué à la télévision, justement mon père, en fait, il saisissait ces instants pour faire des parodies. Et puis c'est vrai que c'était assez violent, le fait d'être assis à cette table, et puis de savoir justement, de connaître son identité et de devoir subir en fait ce sentiment de rejet.
Alors, sentiment de rejet, il peut mener à des travers. On parlait de consommation tout à l'heure. Vous avez eu des addictions vous-même?
Oui, alors je les ai enchaînées. Ça a commencé donc avec le cannabis, où là, effectivement, en grandissant, bah forcément... lors des cours professionnels, on a des amis qui fument. Donc après, on commence à fumer une fois. Après, c'est entre les cours. Et après, ça devient vite un engrenage sans fin. Mmh. Surtout quand on est assez, comment dire, faible sur le plan mental et émotionnel. Donc, c'est vrai que ça a commencé par le cannabis. Après, c'était l'alcool. Après, la cocaïne. Après, le GHB, kétamine. Enfin, vraiment, j'ai fait toutes les addictions possibles.
Mmh. Et tout ça lié à ces blessures émotionnelles, à ces faiblesses émotionnelles?
Ben, en fait, oui. Et puis, c'est vrai que c'était assez difficile parce que il y avait, vu que moi, en fait, de la part de mes parents, j'ai jamais vraiment ressenti cet amour. Donc, c'est vrai que c'était assez difficile à comprendre. Est-ce que c'était vraiment, comment dire, uniquement lié aux blessures émotionnelles? Est-ce que, et je me suis même demandé aussi beaucoup par rapport à ces phénomènes qui se produisaient à la maison. Parce que c'est vrai que de manière générale, le climat, il était vraiment invivable. Il y avait des disputes et des conflits, c'était vraiment quotidien. Mmh. Donc c'est vrai que je commençais un peu à me poser des questions sur tout ça, c'était assez bizarre.
On se pose des questions, on dérape, consommation, problème tout à coup, j'imagine financiers, sociaux et tout. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes rattrapé à quelque chose, à quelqu'un, je ne sais pas?
Alors vraiment, je pense que la chose qui m'a vraiment aidé à remonter la pente, c'est le sport. Mmh. Parce que c'est vrai que malgré toutes ces addictions, j'avais quand même ce passe-temps, donc vraiment le fitness, qui m'aidait quand même à garder justement un point de stabilité. Et puis c'est vrai que c'est comme je l'écris dans le livre, c'est qu'au bout d'un moment, à force de consommer, dépenser beaucoup de l'argent... Mmh. Mais après, c'est aussi avec les poches vides, le cœur en souffrance,
ouais,
que gentiment, ben après, au bout d'un moment, c'est là qu'on prend vraiment conscience de la situation.
Qu'est-ce qu'on fait avec ce manque d'amour que vous avez évoqué tout à l'heure?
C'est un long travail de guérison. C'est un long travail de guérison. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour aider toutes les personnes qui peuvent vivre le même genre de situation que j'ai vécu. Mmh. Parce qu'au final, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des outils qu'on peut utiliser soi-même. Après, c'est sûr que rien ne remplace une psychothérapie avec un professionnel de la santé. Ça, c'est une certitude. Mais je pense que quand même, il y a des choses qui existent et qui peuvent au moins, tempérer tout ça. Ou du moins servir de béquille.
Oui, c'est ça. Vous aider à rester debout, en quelque sorte, c'est ça?
Oui.
Alors, la guérison, en fait, et c'est étonnant dans ce que vous nous racontez, elle est aussi liée à la découverte d'une maladie, parallèlement.
Oui. Ben, en fait, c'était un enchevêtrement de problèmes. Hein. C'est-à-dire que j'avais d'une part cette maladie intestinale. D'une part, j'avais en fait ce fardeau émotionnel et mental lié à mon enfance. Et puis d'autre part, j'avais justement toutes ces addictions que je devais absolument trouver une solution pour m'en débarrasser. Et c'est pour ça que gentiment, en fait, j'ai un peu commencé à explorer de manière personnelle sur Internet, justement, comment est-ce que je pouvais justement m'en sortir. Et puis c'est petit à petit, justement, avec l'aide de certains amis où effectivement on m'a parlé d'un livre. En fait, ce livre, il s'appelle Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Donc c'est vraiment un best-seller. Mm-hmm. Et puis ça, vraiment, cette étape, ça a marqué le début progressif où j'ai commencé à remonter la pente.
En fait, vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses. Est-ce que ça a été douloureux de prendre conscience de tout ça? Parce que des fois, on dit « Ah oui, c'est le chemin vers la guérison », mais des fois, ça peut être très lourd à porter, non?
Oui, ben, en fait, c'est vrai que ce stress que je ressentais, en fait, il a toujours été présent, vous voyez, depuis tout petit. C'est comme dans le livre, c'est comme j'ai écrit, en fait, mon enfance, il n'y a pas eu un Noël, il n'y a pas eu un anniversaire sans cri. C'était toujours, en fait, une ambiance très lourde. Mmh. Et très stressante, en fait. Mmh. Donc, j'avais jamais connu vraiment ce sentiment de paix intérieure.
Oui, on parle cette semaine dans la ligne de cœur de maltraitance, mais des fois, les climats dans lesquels on doit évoluer en tant qu'enfant, adolescent ou jeune, ça peut être très toxique, ça peut être très difficile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a provoqué un déclic au-delà de la découverte de votre syndrome de l'intestin irritable dans votre vie, dans vos fréquentations, dans vos rencontres? Il y a eu du déclic? Ou les voyages, je ne sais pas, peut-être?
Oui, alors c'est vrai que plus tard, dans le livre, comme j'explique, donc lorsqu'il y a eu la pandémie de coronavirus, c'est là où, gentiment, en fait, j'ai eu cet éveil spirituel, où effectivement, je commençais de plus en plus à m'intéresser aux mystères de l'univers, donc notamment à la loi de l'attraction. Mmh. Et puis, j'ai un peu enchaîné les lectures. C'est beaucoup, en fait, aussi à l'aide des livres que ça m'a vraiment apporté de l'aide. Mmh. Et puis, petit à petit, justement, c'est là que le chemin, il commençait à être de plus en plus éclairé vers la guérison.
Et le chemin, disons, de santé physique avec le syndrome de l'intestin irritable, comment vous l'avez parcouru?
Ben, vraiment avec énormément de difficultés, parce que même moi, je ne comprenais pas. Parce que typiquement, par exemple, j'avais plusieurs intolérances alimentaires, par exemple l'intolérance au lactose.
Ouais.
Mais lorsqu'en fait, on m'avait fait les tests d'intolérance au lactose, en fait, on avait montré que je pouvais très bien le digérer. Et c'était vraiment ce genre de paradoxe qui m'avait toujours laissé vraiment dubitatif.
Contradiction.
Exactement, au niveau de cette maladie.
Vous avez beaucoup voyagé, Alex.
Oui.
Ça vous a apporté quoi, les voyages, par rapport à votre guérison spirituelle et physique, on va dire ça comme ça?
Ben, c'est vrai que moi, depuis toujours, en fait, je ne savais pas trop quel sens donner à ma vie. Parce que c'est vrai que la recherche de guérison, ça m'avait pris une quantité de temps, mais énorme. Mmh. Et c'est vrai que quand on ne sait pas quoi faire dans la vie, on dit qu'il faut faire emplée de commerce. Donc c'est un peu la voie de toutes les personnes qui ne savent pas quoi faire, parce qu'on dit que plus tard, ça peut ouvrir beaucoup de portes.
Ce qui est vrai.
C'est vrai que j'avais fait un apprentissage d'emplée de commerce. Et puis par la suite, j'avais continué dans ce domaine, mais je sentais au plus profond de moi qu'en fait, c'était pas ça ma destinée. Et puis justement, l'avènement du Covid et la mise en place du télétravail, ça a fait que d'accentuer en fait cette déconnexion qui était déjà présente vis-à-vis de mon travail. Et puis c'est vrai que après j'ai eu la chance en fait d'avoir cette opportunité professionnelle à l'étranger, donc en Thaïlande, où je suis parti 3 mois. Mmh. Et là, effectivement, ça a été une totale déconnexion. Mmh. Où vraiment je me suis beaucoup remis en question, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit bon, peut-être que en fait tout ce que j'ai vécu, que ça soit ces blessures émotionnelles, etc., cette maladie, toutes les thérapies holistiques et médicales que j'ai essayées, peut-être il fallait que je partage ça dans un livre.
Oui, ce que vous avez fait.
Donc, et c'est ce que j'ai fait.
Ouais.
Et c'est vrai que petit à petit j'avais toujours ce doute. Parce qu'en fait, cette maladie, elle était toujours présente. Mmh. Et c'est vrai que plus j'avançais dans l'écriture du livre, et plus je ressentais en fait cette connexion avec l'univers. C'est vrai que c'est un peu difficile à expliquer pour des personnes qui ne l'ont jamais expérimenté. Mais c'est vrai que ça a commencé par ces heures, vous savez, miroirs, ces heures angéliques aussi qu'on dit. Par exemple, 11h11, midi 12. Voilà, certaines personnes... Certaines croyances disent qu'en fait, il y a justement une signification derrière ces heures, surtout lorsqu'elles apparaissent de manière fréquente. Mmh. Donc, c'est vrai que je me suis un peu intéressé à tout ça, vous voyez?
Oui, ça vous a fait avancer.
Oui, et puis jusqu'au jour où, effectivement, j'ai eu cette connexion, en fait, avec Dieu, vraiment.
Merci beaucoup.
Merci
Guérir
beaucoup.
L'invisible, c'est le titre de votre livre, Secret ancestral d'une maladie chronique. Merci d'être venu, Alex. Merci infiniment, Alex Perez.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Bonne soirée,
bonne nuit.
Au revoir.
Au revoir. témoigner, n'hésitez pas à le faire. Et pour cela, je vous redonne notre numéro de téléphone. 0800 80 70 70 0800 80 70 70. Et puis les WhatsApp. Mais oui, j'ai oublié de préciser qu'on pouvait évidemment, et c'est clair, nous envoyer des WhatsApp au 076 318 9 6 4 9 et nous envoyer, si vous le préférez, des SMS au 939, cœur un espace suivi de votre message. Et c'est Suzanne qui dit oui, c'est indispensable de suivre une psychothérapie par rapport au témoignage de cet instant. Et le témoignage de cet instant, c'est, si j'en crois, l'heure de l'envoi du WhatsApp, le témoignage du moment, celui d'Alex. C'est Mathias Brönnimann qui est en réalisation ce soir. C'est Daniel Do qui attend vos appels au standard téléphonique de la ligne de cœur au 0800 80 70 70. Et les dons sont possibles pour Cœur à Cœur sur bonheur.ch. Il est 23h.